France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Les cheveux ont un statut ontologique ambigu. Générés par le corps, partie essentielle de notre apparence physique et de notre être au monde, vecteur dans nos constructions culturelles de beauté et de désir, les cheveux ne sont pas pour autant des organes. Ils ne sentent pas, ne touchent pas, ne font mal qu'à leurs racines s'ils sont arrachés. Ils sont autant nous qu'ils nous sont étrangers. Et on ressent à peine une pointe de nostalgie lorsque le coiffeur ou la coiffeuse nous ampute de la moitié de notre masse capillaire. Pourtant, les cheveux occupent dans la mythologie et dans nos mythologies personnelles une place de choix. Entre les serpents pétrifiants de la Gorgone et les longs cheveux blonds de Réponse dans le conte des frères Grimm, les cheveux sont l'objet de fictions et de fantasmes. D'aucuns diraient, et en particulier sur cette dernière décennie, qu'ils sont devenus un objet de mode, un moyen d'expression recoupant aussi bien des enjeux politiques que des enjeux esthétiques. Dans ce numéro des Nuits magnétiques de Jacqueline Guyen, diffusé pour la première fois le 23 janvier 1978, c'est bien l'aspect mythologique de la chevelure qui est traité, précédé d'un court documentaire sur un autre élément central de nos symboles culturels, le feu. Le feu et la chevelure, ou les limites de la représentation et de l'identité, c'est tout de suite dans les Nuits de France Culture.
La chevelure et ses feux, par Jacqueline Guyen, dans une réalisation de Michel Abgral. Mais maintenant, et un peu dans le désordre, ma promenade autour du feu. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai eu froid. Alors, j'ai cherché du feu.
Le feu, ça fait du mal, le feu. Ça réchauffe aussi.
Bon, c'est... Pourquoi ça fait du mal?
Eh ben, si on brûle, ça brûle les gens, non?
Et alors?
J'ai dit c'est peut-être aussi ce qui nous manque dans la vie, c'est tout.
C'est-à-dire?
Je sais pas, on manque peut-être un peu de chaleur autour de nous. C'est peut-être le feu.
Qu'est-ce qu'on a autour de nous? Qu'est-ce qu'on voit?
Tout sauf le feu.
Monsieur?
Moi je suis pas dans le feu, moi.
Le feu, c'est du plasma froid, c'est la matière qui brûle.
Du plasma froid?
Oui.
C'est-à-dire?
Oh, je suis pas physicien, mais enfin, j'ai eu quelques petites documentations. Plasma froid, plasma chaud, c'est la désintégration de l'atome. Le feu, c'est du plasma froid, tout ce que je peux vous dire.
Monsieur le peintre, qu'est-ce que le feu?
Le feu, c'est rond et c'est carré. C'est vertical et horizontal. On dit que c'est bleu et puis que c'est rouge. Moi, je crois que c'est vert et que c'est violet. Le vieux, c'est une chose en néon qu'on voit dans la rue des Lombards accrochée à une façade. Le feu, c'est une chose en vitrine qui ressemble au Père Noël, qui est tout en plastique et qui fait rêver les enfants au mois de décembre. Le feu, c'est quelque chose perdu dans une grande maison que j'ai pas connue. Le feu... Ce feu, c'est quand j'ai froid aux mains et quand j'ai chaud à la tête. Le feu, c'est rien. Il paraît que c'est rouge. Le feu, c'est comme le diable. C'est peut-être pour ça que je l'aime. Le feu, c'est des croisements de rue qui ressemblent à rien, qui sont ouverts et puis des fois orange. Le feu, c'est des voitures de pompiers qui font les bruits quand je me réveillais mal. Le feu, c'est encore des voitures. C'est tout jaune, c'est un taxi. c'est New York. Le feu, c'est une fille que j'ai pas rencontrée. Le feu, c'est encore un poème que j'ai pas écrit.
Et pour vous, Raphaël Brossard, qu'est-ce que le feu ?
Le feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Et comme vous le voyez, je suis en train de fumer une cigarette. Alors je crois que les gens fument à cause du feu. À cause de la fumée, à cause des cendres aussi. Par exemple, une des métaphores les plus courantes, c'est que, par exemple, quand quelqu'un est mort, on dit « feu monsieur un tel », « paix à ses cendres ». On compare la vie d'un être humain très facilement à du feu. On dit par exemple il s'est éteint quand il est mort, comme on éteint une cigarette. Alors ça, le feu a un rapport avec la vie et la mort, je crois. Les flammes, c'est quelque chose qui danse et qui monte, ce sont des langues de feu. Il y a toutes sortes de représentations mythologiques qui se rapprochent des flammes. Par exemple, l'hydre de Lerne, qui a plusieurs têtes, et quand on en coupe une, elle repousse. Il y a les dragons, qui ont des langues de feu, qui crachent du feu. Par métaphore également, on peut évoquer... tout ce qui est de l'ordre des feux de la passion ou des feux représentent la vie à l'intérieur de soi. Alors il s'agit beaucoup plus des métaphores qui sont utilisées par tout ce qui peut brûler ou enflammer ou réchauffer le corps individuel. Par exemple, les gens qui rougissent facilement, ils ont les joues en feu, comme on dit. Non seulement donc un être humain en vie peut être comparé à un feu dont la vie même viendrait à brûler plus ou moins vite. Il y a des gens qui brûlent la chandelle par les deux bouts, par exemple. Il y a des personnes qui consomment et se consument comme un feu. Il y a une idée de ravage fait par le feu.
Quand le monde sera réduit en un seul bois noir pour nos quatre yeux étonnés, en une plage pour deux enfants fidèles, en une maison musicale pour notre claire sympathie, je vous trouverai. Qu'il n'y ait ici-bas qu'un vieillard seul, calme et beau, entouré d'un luxe inouï, et je suis à vos genoux. Que j'ai réalisé tous vos souvenirs, que je sois celle qui sait vous garrotter, je vous étoufferai. Quand nous sommes très fortes, qui recule ? Très gaies, qui tombe de ridicule ? Quand nous sommes très méchantes, que ferait-on de nous ? Parez-vous, dansez, riez. Je ne pourrai jamais envoyer l'amour par la fenêtre. J'ai tendu des cordes, de clocher à clocher, des guirlandes, de fenêtre à fenêtre, des chaînes d'or, d'étoile à étoile, et je danse.
Le feu serait une espèce de bête sauvage que l'homme aurait réussi à domestiquer et qu'il continuerait à craindre, mais dont il aurait besoin pour survivre. Le feu, c'est un élément étrange et qui a un rapport non seulement avec toutes sortes d'images qui font penser à tout ce qui élève, bon, des images même ambitieuses, mais aussi quelque chose qui est de l'ordre de la transgression et du diabolisme les flammes de l'enfer, par exemple, sont une image courante pour représenter la punition, par exemple. Dans la Bible, il y a une phrase qui est du genre celui qui a commis des péchés par le feu périra par le feu.
Mais malheureusement, aujourd'hui, ce n'était pas la Saint-Jean. C'est vrai, c'est devenu si rare le vrai feu dans Paris. Avec la neige mouillée la semaine dernière, les voitures affolées dans leurs embouteillages et les gens qui passent. Et puis, dans une petite rue du Cherche-Midi, j'ai rencontré...
Oui.
Et comment on le fait ce feu alors, quand vous l'allumez d'abord?
Il reste toujours de la braise en permanence en foyer.
Ouais.
Parce qu'on réchauffe pour chaque fournée.
Ouais.
Alors vu qu'il y a de la braise, on remet du bois bien sec et ça reprend aussitôt. Quand il y a un fort tirage, vous pouvez le constater. Vous voyez, la flamme elle sort au fond du four.
Voilà.
Et il y a trois cheminées au fond du four et la flamme elle sort, elle traverse le four.
Vous vous brûlez jamais?
Non.
Et alors où est-ce qu'on met le pain?
Une fois que le four est chaud, à l'intérieur du four.
Là, avec cette flamme, déjà?
Oui, non, une fois que la flamme est éteinte. On chauffe le four quand il est vide. On chauffe toute la masse de briques réfractaires.
Vous allez en mettre, là?
Dès que le four va être chaud, oui. Alors, vous voyez, là, je viens de pétrir une fournée, là. C'est une fournée de pain de seigle. Alors, dans le pain de seigle, il y a du levain, du sel, de la farine de seigle, de l'eau, de la farine.
C'est énorme, là, cette cuve.
C'est le pétrin, ça. Alors là, vous voyez, je viens de pétrir une fournée. Je vais refaire un levain, maintenant.
Et ça, qu'est-ce que c'est?
C'est du pain de seigle, ça. Et le levain, c'est de la pâte fermentée qui nous reste d'une fournée sur l'autre. Vous voyez, c'est cette pâte-là. On en retire un tiers environ, on remet de l'eau, de la farine, et on refait un levain complet. Et une fois que ce levain est bien fermenté, on en retire un tiers, et ainsi de suite.
Pour chaque fournée. Du pain de seigle, ici?
On fait pain de campagne, également.
Et vous commencez à quelle heure le matin? Je sais que les boulangers commencent tôt.
Oui, mais ça marche 24 heures sur 24, ici. Oui, mais je suis pas tout seul, on est quatre, alors on fait des roulements.
Toute la nuit?
Toute la nuit, sauf le dimanche. Nous, tout est fait exactement comme autrefois, le seul truc moderne, c'est le pétrin, ce que vous voyez là. Sinon, tout est fait à la main, c'est pesé à la main, c'est façonné à la main. Tout est, la mise au four, c'est à la main, tout est fait à la main. Alors que dans les boulangeries modernes, tout est fait avec des machines.
Et le feu?
Ça vous plaît, ça, le feu, hein? Alors là, je vais recharger le four, mais encore du bois, jusqu'à temps qu'il soit bien chaud. Vous entendez le tirage, il y a 6 étages de cheminée. C'est pour ça qu'il y a un fort tirage.
Qu'est-ce qu'il
fait chaud ici.
Oui, surtout au pied du four.
Bon, alors, vous êtes ce qu'on appelle boulanger.
Oui, boulanger, oui.
Depuis combien de temps?
10 ans.
Oui. Et comment est-ce qu'un jour on devient boulanger?
Oh, ben, par vocation. Faut aimer ça, faut avoir connu ça.
Comment vous l'avez choisi, ce métier?
Oh, parce que j'ai connu un boulanger chez moi, oui, à la campagne, dans la Sarthe.
Et alors, là, vous aviez quel âge?
Oh, ben, quand j'allais à l'école, quand j'étais tout petit. Parce que j'ai commencé à 14 ans. Et en apprentissage, 3 ans d'apprentissage, puis après, ouvrier.
Et ensuite, on est monté à Paris?
Oui, on est monté à Paris une fois eu le CAP. Tous les jeunes montent à Paris, surtout en boulanger, parce que ça paye mieux, puis ça change.
Et alors, quand vous êtes arrivé à Paris, vous ne connaissiez personne ici?
Non, je ne connaissais personne.
Comment ça s'est passé alors?
Bon, j'ai trouvé comme ça, en France soir, et puis hop, une fois qu'on a trouvé on fait des relations facilement.
Petites annonces?
Oui, petites annonces. Enfin, petites annonces, la première place comme ça, oui, je l'ai eu comme ça, après, petites annonces. Je fais 2-3 places, et puis après, je suis parti à l'armée, puis je suis revenu. J'ai encore fait une maison avant de venir ici. Puis mais ici, ça fait presque 3 ans que je suis.
Alors, quelle différence vraiment entre les autres boulangeries et les autres travaux que vous avez fait ici?
Oh, ben, la différence, elle est énorme, parce que maintenant, on ne fait ça nulle part. Hein. Alors maintenant, c'est le métier de boulanger, c'est vraiment ici. C'est ailleurs, tout le monde peut le faire. Et vous, il suffit de savoir régler les machines, tout est fait à la machine, alors la manœuvre peut le faire. Alors qu'ici, bon, bah, la pâte varie suivant le temps, suivant tout. Hein.
Je vois que vous êtes très peu vêtu. Moi, j'ai très chaud. Hein. Ici, fait très chaud.
Oui, oui. Ah ben nous, c'est notre tenue d'été, notre tenue d'hiver, ça. Alors pour l'hiver, ça va, mais l'été, il fait quand même un peu chaud, même en n'ayant rien.
Vous pouvez me dire comment vous êtes habillé?
Bon, juste un short et puis une paire de savates.
Et le bois, d'où est-ce qu'il vient, le bois? Je vois à côté une pièce entière pleine de bois.
Ah, c'est la réserve de bois à côté. Alors, on est approvisionné en chute de menuiserie ou alors, comme vous voyez, du bois de forêt, là, du bois d'Auster.
Qu'est-ce que vous faites là?
Du pain de mie, là, je suis en train de faire. Alors, le pain de mie, c'est du sel, du sucre, de la levure, de la farine et du beurre.
En tant que boulanger, c'est la première fois que vous faites du pain en faisant du feu?
Ah non, je l'avais fait en apprentissage quand même, ça chauffe au bois.
Et c'est quand même autre chose de faire du pain avec un vrai feu plutôt que un four.
Ah oui, parce que là on voit quand même la flamme, alors que dans les fours à vapeur on voit rien du tout. Hein. On sait qu'il chauffe, mais on s'en aperçoit. Mais c'est chauffé au mazout et c'est derrière le four, ça chauffe la tuyauterie, on voit même pas la flamme, on entend juste le four ronfler, c'est tout. Alors que là on voit vraiment, on se croirait au pied d'une cheminée quand on est au pied du four. Hein. On voit la flamme, on voit les bûches de bois, puis on entend le feu ronfler. C'est autre chose.
Ça sent bon ici?
Ah oui, ben, il y a l'odeur du bois qui brûle, la résine du bois, puis il y a toujours la pâtisserie, c'est la pâtisserie faite au beurre, ça dégage un certain parfum, le pain aussi également, tout est parfumé, c'est un genre de parfum, beaucoup de gens nous le disent d'ailleurs, vu qu'il y a de la visite, beaucoup nous le disent, ça sent bon ici dès qu'on arrive.
Les gens descendent ici?
Ah oui, on a beaucoup de visites, ceux qui veulent descendre peuvent descendre. Il y en a qui font même leur pain eux-mêmes, alors ils nous demandent des tuyaux, des conseils. Ça arrive, oui.
Ici, à Paris, il y a des gens qui font leur pain eux-mêmes?
Ah oui, oui. Des vieux, bien sûr, mais enfin, des jeunes aussi. Beaucoup de jeunes, d'ailleurs. Ils viennent nous demander des trucs. Du levain, on vend également du levain. Alors, ils nous demandent un petit peu de levain pour faire... vous savez, alors on leur dit comment faire. C'est très difficile à réussir. En petite quantité, c'est beaucoup plus difficile qu'en grosse quantité. Mais enfin, c'est pas irréalisable. Mais enfin, c'est long à faire et ça demande beaucoup de soins, c'est surtout ça. Même nous, on en rate, même en faisant plusieurs fournées tous les jours. Ça dépend de l'atmosphère, vous voyez, s'il fait chaud, s'il fait froid, on pétrit pas pareil. Puis il faut pas être dérangé, c'est ça.
Et ceux qui viennent vous voir, c'est qu'ils ont des problèmes pour faire du pain. Et en général, c'est quoi? C'est quel genre de problème? Le pain ne monte pas
Oh bah, tout le monde a son petit problème, puis ça, chacun habite, ça dépend des lieux où on le fait, il ne faut pas qu'il y ait de courant d'air, il ne faut pas tout ça. Parce que la pâte, c'est une matière vivante, alors il faut la cultiver avec soin. Alors puis il y a la cuisson, ensuite dans le four, bon ils n'ont pas des fours comme nous, ils font ça dans la cuisinière ou la gazinière, alors là ça pose encore des problèmes, il faut savoir le chauffer adéquat. Puis, vous savez, il y a des tas de petits, tout au long de la fermentation, il y a des petits détails à mettre en valeur, nous on sait, puis
Beaucoup ne savent pas.
Mais qu'est-ce que c'est ce réveil ?
Ça nous sert de guide pour chauffer le four. Pour chauffer un four comme il faut, alors on se sert du réveil et de la couleur de la brique réfractaire. C'est plus elle est chaude, plus elle est blanche. Alors ça nous sert de guide approximatif et puis on se fie sur la couleur de la brique réfractaire qui est à l'intérieur du four pour voir si le four est bien chaud. Alors plus le four est chaud, plus la brique réfractaire est blanche.
C'est étrange ça.
Oui, c'est étrange, oui.
Et quand il est froid, il est quelle couleur ?
Noir. Enfin sombre, disons. Sombre, et quand il est bien chaud, il est presque lumineux.
Des rêves avec des cheveux et des chevelures. Mon premier rêve de cheveux est de bien d'autres choses, mais ce soir j'ai envie de parler de chevelure et de cheveux. Mon premier rêve, donc, était un homme qui portait un enfant. L'enfant, la petite fille, était accrochée aux cheveux de l'homme, aux cheveux de l'homme, aux désirs de l'homme. Cheveux noués, désirs enchaînés, cheveux sacrifiés, désirs silencieux, cheveux cachés, cheveux soumis, cheveux noyés. Mon second rêve était une femme, et ses cheveux tombaient en auréole. Cheveux épars, cheveux défaits, désirs éparpillés, cheveux en révolte, cheveux en bataille. Le troisième rêve, c'est encore une femme qui coupe le bout de ses cheveux, la partie qui est encore teinte. Cheveux qui brillent, désirs qui poussent, cheveux naturels, musique des cheveux, retour des désirs. Et maintenant, il est le temps d'écouter La chevelure et ses feux de Jacqueline Nguyen dans une réalisation de Michel Abgral.
Ma femme a la chevelure de feu de bois.
Avec Émile Roger, psychanalyste, Gilbert Durand, anthropologue, Emmanuel Provellair, peintre. Dans une réalisation de Michel Abgral.
Parler, rêver sur la chevelure, c'est s'engager dans un labyrinthe où joue miroir d'amour, de mort et d'interdit. C'est aussi découvrir le fil de la mémoire et de l'espérance dans un monde clos, prisonnier de ses propres terreurs et mirages. De ce réseau multiple, nous tenterons ici quelques chemins. Se couvre et nous la femme, déesse ou mortelle, de ses attraits obscurs et rayonnants.
Si la chevelure est bien l'apanage, j'allais dire l'empennage d'ailleurs, de la féminité, il m'apparaît immédiatement, ne serait-ce qu'en tant que médecin, que la chevelure est aussi le signe et le symbole de la maternité. Et pourquoi ? Tout simplement, me semble-t-il, parce que le nouveau-né, dès l'instant où il se nourrit au sein ou au biberon, a tendance, et toutes les mères le savent, à s'accrocher à ses cheveux.
Émile Roger.
Et ce lien capillaire entre la mère et le nouveau-né me paraît être une succession logique et naturelle du lien que constituait auparavant le cordon ombilical.
Psychanalyste.
Nous devrons admettre que, littéralement, le cheveu, c'est avant tout ce qui sort de la tête. Et si c'est une racine qui joint la mère à l'enfant, c'est aussi la racine qui joint l'homme en général, et pas seulement la femme, à ce qui est dans sa tête. Donc il y a le cheveu cordon ombilical évolué, et il y a le cheveu cordon ombilical de l'intérieur à l'extérieur, c'est-à-dire lien entre la pensée interne et la pensée exprimée. Si il y a la chevelure, c'est-à-dire la chevelure de la tête, il y a l'autre chevelure. Il y a la chevelure cachée. Celle-là même, la première en somme, que le nouveau-né a connue, en la touchant d'ailleurs de sa nuque, lorsqu'il est venu au monde, c'est-à-dire le pubis. Et il y a bel et bien une correspondance, un écho sourd, lancinant et sensuel entre la masse capillaire et ce buisson sacré. Les poètes et tous les hommes sont en quelque sorte obligés de découvrir, et en tout cas ils cherchent, dans la chevelure de la femme, qu'elle soit d'or, d'argent, rousse, auburne, la toison.
Dans l'aspect terrifique de la femme, dans l'aspect du terrible animal, selon Stendhal, dans cet aspect de la femme initiatrice, dans l'aspect même banal, que quel que soit le dévergondage des mœurs, la première initiation du garçon par la femme est toujours quelque chose qui se fait dans une sorte de crainte et de tremblement, malgré tout, ou tout au moins dans une sorte de fébrilité qui correspond à cela.
Gilbert Durand.
Toute la vieille mythologie, justement,
anthropologue,
fait appel à des images où le terrifique est lié à la fois à la féminité négative et à sa reconquête par une féminité positive. Je pense à la tête de la Gorgone, n'est-ce pas, à la tête de Méduse et à l'Égide, qui alors est transposée, n'est-ce pas, est conquise sur le mâle, est transposée sur le bouclier d'Athéna, Pallas Athéna, n'est-ce pas? Mais c'est la même terreur qui est transposée, n'est-ce pas? On pourrait dire que d'un côté, il y a une terreur pure et maléfique, et de l'autre, il y a une terreur policée, civilisée, intégrée dans tout un système. Car il faut bien voir, et Nietzsche l'avait vu le premier, n'est-ce pas, que les éléments négatifs sont parfaitement bien intégrés dans la civilisation grecque. Il n'y a pas qu'Apollon, il y a Dionysos, pour reprendre une thématique nietzschéenne. Alors, vous avez là encore la thématique de la chevelure féminine redoutable, de la chevelure féminine qui peut très bien évoquer l'ondulation du serpent. C'est le cas, n'est-ce pas, l'ondulation du serpent et se transformer en vipère ou en serpent. Que serpenté, ondulé, c'est la même chose pour un œil humain, n'est-ce pas ? Ça suggère, le cheveu, l'eau et le serpent suggèrent exactement la même thématique. Eh bien, je crois que cette chevelure serpentine est le type même de la chevelure par laquelle doit passer l'initiation masculine.
Saint John Perse. Nuque brûlée d'amour, chevelure où fut l'ardente saison, et les sels enfiévrés comme salaison de rose dans les jattes d'argile.
L'anthropologue remarque que tous les éléments du corps qui sont plus ou moins putrescibles, les os, les poils, les ongles, la peau momifiée, le sang séché, et la chevelure, le cheveu, sont l'équivalent de la force individuelle vitale. Ça, c'est la grande thématique qui couvre absolument toute la symbolique de la chevelure.
Ma femme à la chevelure de feu de bois.
Feu ténébreux et feu lumineux, pour reprendre les expressions de Jacob Boehme, en tout cas feu captateur, dévorant, la chevelure dit le lien qui enchaîne et le lien qui unit, les tentacules de l'hydre et la couronne d'or, le cercle d'exil et l'alliance féconde. La femme noire, Lilith, Isis, en sa barque de lune, appelle au premier voyage. Vertige, torpeur, dérive jusqu'à l'arbre solaire que suscite la femme blonde, Iseu, comme échelle de délivrance. La rousseur dirait peut-être tout le périple de l'engloutissement à la résurrection.
Il serait bon de distinguer entre la chevelure claire, solaire en un mot, fut-elle portée par une tête de femme, dont on pourrait dire qu'elle est à prédominance apollonienne, et la chevelure sombre, tellurique ou ctonienne, qui serait plutôt une expansion ou une émanation du domaine de Pluton, le dieu souterrain. Les Indiens, comme l'on dit aujourd'hui, n'ont pas attendu Louis XIV, et le dieu Shiva lui-même, dans une mythologie près de trois fois millénaire, se présente bel et bien avec des tresses d'ailleurs, car il s'agit également de tresses ou de bandeaux. Je crois que la puissance n'a pas de sexe, mais qu'il faut justement voir là quelque chose qui était contenu dans le dualisme premier, à savoir que s'il y a puissance de séduction, sous-entendu sexuelle ou sexuée dans la chevelure, il faut aussi y reconnaître la puissance intellectuelle, c'est aussi l'idée. Et le cheveu long et fort représente bien une émanation de ce qui sort de la tête.
Ma femme a la chevelure de feu de bois.
Athéna, déesse au casque d'or, la pensée qui sortit comme un cheveu de la tête de Zeus.
Les cheveux, c'est la personne et ce n'est plus personne. C'est à la périphérie, au-delà de la personne. Et il est absolument vrai que c'est comme un pays ou un être qui cherche à arriver à une expansion maxima, une mèche de cheveux.
Emmanuel Provellère.
Au vent.
Peintre.
C'est quand même pas le corps. Ça côtoie l'extérieur, ça séduit l'extérieur et ça cherche contact à l'extérieur. Il y en a quelque chose... qui se marie avec l'extérieur sans contour figé. C'est une masse et qui n'est pas masse et qui est quand même beaucoup plus mouvante selon le vent, selon la démarche même. Chez Botticelli, c'est une masse. Chez Okusai ou Tamaro, vous verrez les cheveux peints poil par poil et quand vous voyez les cheveux des Asiatiques, leur optique, ce n'était pas l'optique des masses. La présence d'une femme chez Otamaro n'est pas celle de Renaissance. Il n'y a pas aucune ombre, il n'y a pas de notion de masse. Le Renoir, ça comptait beaucoup les cheveux chez lui. Alors, depuis ses filles à lui qui jouent au piano, avec des longs cheveux blonds, jusqu'à l'apogée de son âge et de son œuvre, où les cheveux deviennent quand même de volume. Et toujours avec la même persévérance dans la représentation. D'où vient cette représentation? Elle est sensorielle. Il ne pouvait pas la lucider ni la décrire, parce que c'est extrêmement délicat. Vous avez presque la même ombre, le même nuage qui est sur l'ange, sur le sein, et pourtant, c'est les cheveux. Chez les orientaux, c'est très différent. Il y en a une feuille blanche qui représente la mort et la vie. Pour nous, la feuille blanche ou la toile blanche représente la mort uniquement. On cherche à l'arrêter d'une façon très dramatique. Chez eux, pas du tout. Alors, ils ont tous leurs loisirs, tout leur temps, faire des tout petits détails. Eux, ils savent fixer cette civilisation de contemplation. Alors, le peintre, là, tout le temps, il a la possibilité, parce qu'il n'est pas prétentieux, il vit, il meurt sans drame. Alors, il peut faire chaque cheveu de la fille et la lune après.
Voilà. Le cheval, la chevelure, le vent, le temps, la course du fleuve et du soleil.
Vous avez toujours dans le folklore le cheval qui est lié au temps maléfique. Alors, ce mot maléfique, il vient peut-être des conflits avec le christianisme nouveau par rapport au vieux fond celtique ou germano-celtique, où le cheval était au contraire honoré. Mais de toute façon, le cheval est un élément du temps. Les grandes divinités mesureuses du temps, les luminaires, que ce soit Hécate ou que ce soit Hélios, Apollon, sont montés sur des chars ou sur des coursiers. Et cela dans toute la tradition indo-européenne, au moins. Mais également, un trait, c'est que le cheval a des cheveux. C'est un des rares animaux qui, de façon très nette, plus nette que chez le lion, montre des cheveux séparés, même quelquefois au point de vue couleur, de la robe du cheval. Alors, on dit réciproquement d'une coiffure qu'elle est en queue de cheval. Bon, il y a donc une parenté indiscutable entre les crins de la queue du cheval, et surtout de la crinière, et la chevelure, et dans notre contexte, la chevelure féminine. Le cheval est donc un animal qui peut se ranger dans le maléfice féminin, en général, pour une société androcratique, ou j'ose pas dire phallocratique, le mot est tellement usé de nos jours, mais enfin dans ces sociétés issues du droit gréco-romain, surtout du droit romain, dans lequel c'est le pater familias qui porte culotte et qui ne porte pas chevelure, ce sont les deux choses, alors qu'au contraire, la femme porte la chevelure, et le cheval aussi, si je puis dire. Alors, il participe au maléfice, au rai, au lien associé à la femme. D'ailleurs, regardez combien on aime lier un cheval. Je ne parle pas seulement du gaucho, du lasso, des différents moyens de liage, mais également du harnais et de tout le système compliqué de harnachement d'un cheval. Également, le cheval est un animal, et cela dans toutes les sociétés, dont on fait la toilette. C'est une partie importante de la cavalerie, si je puis dire, que ce soit la cavalerie mongole ou la cavalerie des anciens romains, ou la cavalerie d'importation chez les Indiens d'Amérique, et puis bien sûr chez nos cavaliers en Occident. Le cheval est un animal... qui cristallise des éléments de toilette. Il y a des peignes, il y a des brosses, il y a des appareils à carder, le cheval. Alors il y a bien une parenté, non seulement, j'allais dire, dans la forme chevelure, mais encore dans le traitement qu'on lui donne, qu'on donne à l'un ou à l'autre. Et là, le cheval aussi est ambivalent. Dans le rêve, dans le cauchemar, n'est-ce pas, c'est le fait d'être monté par, chevauché, n'est-ce pas, coché, comme on dit, du coq qui coche la poule, qui monte sur la poule, il y a à la fois un élément masculin, le cheval est un animal de guerrier, un animal viril, si je puis dire, et en même temps, un élément féminin du côté de la chevelure. Le cheval cristallise donc, dans l'inconscient collectif, aussi bien les forces solaires, viriles, aussi bien que les forces nocturnes.
Mallarmé. La chevelure vole d'une flamme à l'extrême, occident de désir pour la tout déployer, se pose, je dirais, mourir un diadème, vers le front couronné son ancien foyer.
Il est remarquable de constater combien, dans des cures analytiques par exemple, nous rencontrons fréquemment des rêves de cheveux. Et où l'analyste est très souvent identifié avec un coiffeur, et le patient ou le malade vient se faire faire des opérations capillaires dont il ne comprend évidemment jamais le sens. Il y a évidemment, au niveau du transfert entre patient et analyste, quelque chose de l'ordre de la séduction qui passe à travers ses rêves de cheveux. Freud ne s'est pas trompé. Mais il importe tout de même de compléter l'optique freudienne en réaffirmant très fortement que les cheveux, c'est ce qui se met en place, c'est ce qui se coiffe, c'est-à-dire s'ordonne. Et l'analyste ordonne les cheveux, c'est-à-dire qu'il ordonne les pensées, les idées. Il n'y a pas seulement cette mise en ordre du cheveu, et là il s'agit bien évidemment de pensées qui sont de l'ordre des pensées conscientes, mais il y a une remise en ordre du cheveu à l'intérieur, ou de la chauve-souris dans le beffroi, ce mammifère oiseau capable de toutes les inversions. Ce n'est pas par hasard qu'il signale aussi la virevolte des idées et des pensées, la folie en un mot. Et le cheveu, se faire des cheveux, équivaut évidemment à la dépression, voire à la véritable mélancolie. Le névrosé obsessionnel, c'est bien celui qui coupe les cheveux en quatre et qui ne finit jamais son compte de cheveux coupés en quatre, etc., etc. Et là, il y a une foule d'images associatives dont nous sommes prisonniers, il ne faut pas se le dissimuler. Ne serait-ce que pour reprendre cette idée de folie et de cheveux, je peux vous raconter une brève histoire. On m'envoie une jeune femme qui était, paraît-il, l'objet d'une analyse ratée. Elle vient chez moi, elle avait un foulard sur la tête et ne disait pas un mot. Mais je remarque qu'elle a de temps en temps un tout petit geste vers son foulard. Elle vient me voir trois ou quatre fois de suite sans dire un mot. Elle n'ouvre pas la bouche. Et à la quatrième fois, je lui demande simplement d'enlever son foulard. La malheureuse était pratiquement chauve. Elle s'arrachait les cheveux d'une façon subreptice en se cachant de tous. Et ce foulard servait paradoxalement à attirer l'attention sur sa tête vide, car elle était schizophrène. Et son premier énorme progrès a été la possibilité pour elle de dessiner des immenses corbeaux noirs qui lui arrachaient les cheveux avec leur bec. Ne serait-ce que pour vous remettre en mémoire ces fâcheux augures chez les Latins, où c'était des vols de corbeaux qui volaient vers la gauche, n'est-ce pas, sinistrement parlant. Et cette schizophrène, qui n'avait pas une culture particulière, avait très bien retrouvé ces grands mythes antiques, n'est-ce pas, qu'on retrouve dans ces comportements de deuil, de s'arracher par exemple les cheveux. Ça se fait toujours en Corse, paraît-il, dans certains villages. Il y a les pleureuses, et puis celles qui s'arrachent les cheveux. Mais ces rites dévolus, petit à petit, à des professionnels, font bien partie des mouvements spontanés et les plus profonds de l'humanité tout entière. Et d'ailleurs, je dois signaler, parce que c'est frappant, qu'en cours d'analyse, il est des femmes qui perdent leurs cheveux comme unique symptôme dépressif et dont la repousse des cheveux peut être le premier signe de la guérison qui est en route. Vous voyez comme le cheveu fait véritablement lien entre le monde interne et le monde externe. Ce n'est pas quelque chose dont on est irresponsable, mais c'est quelque chose qui émane de nous malgré nous, ce qui est quand même différent.
Gilbert Durand. Les structures anthropologiques de l'imaginaire. La chevelure est liée au miroir dans toute l'iconographie des toilettes de déesses ou de simples mortels. Le miroir, chez de nombreux peintres, est élément liquide et inquiétant, d'où la fréquence en Occident du thème de Suzanne et les vieillards, dans lequel la chevelure des fêtes se joint au reflet glauque de l'eau, comme chez Rembrandt, qui par quatre fois reprend ce motif, comme chez Tintoret, où s'allient la parure féminine, la chair, la chevelure précieuse, le miroir et l'onde. Ce thème nous renvoie à deux mythes de l'Antiquité classique. Le premier de ces mythes est le moins explicite. C'est celui de Narcisse, frère des Naïades, poursuivi par Écho, la compagne de Diane, et auquel ces divinités féminines font subir la métamorphose mortelle du miroir. Mais c'est surtout dans le mythe d'Actéon que viennent cristalliser tous les schèmes et les symboles et part de la féminité nocturne et redoutable. Actéon surprend la toilette de la déesse qui, les cheveux défaits, se baigne et se mire dans les eaux profondes d'une grotte. Effrayée par les clameurs des nymphes, Artémis, la déesse lunaire, métamorphose Actéon en animal, en cerf, et, maîtresse des chiens, lance la meute à la curée. Actéon est mis en pièces, lacéré. Et ses restes, dispersés sans sépulture, donnent naissance à de lamentables ombres qui hantent les halliers. Rien n'y manque. Thériomorphie dans sa forme fugace et sous sa forme dévorante, eau profonde, chevelure, toilette féminine, cri, dramatisation négative, le tout enrobé dans une atmosphère de terreur et de catastrophe.
Il y a des thèmes privilégiés qui mettent en évidence la toilette féminine et par conséquent la chevelure défaite ou en train de se refaire. On trouve cela dans toute la peinture galante du XVIIIe siècle, bien sûr. On trouve cela dans la peinture de la femme sous la Renaissance, le Titien, où vous avez des femmes qui jouent avec leurs cheveux ou se peignent, Tintoret, Suzanne et les vieillards, qui est un grand thème de la peinture renaissante, mais également Bézabé. Bézabé, vous avez de nombreuses Bézabé, c'est le doublé Bézabé, c'est le doublé à peu près davidien, si je puis dire, de Suzanne et des vieillards. Mais il y a un peintre qui a peint une Bézabé qui est justement célèbre, c'est Rembrandt. Cette Bézabé se trouve être, bien sûr, tout à fait privilégiée, c'est sa seconde femme, c'est-à-dire sa servante maîtresse. Et là, vous avez le thème de la chevelure, de la nudité, une nudité d'ailleurs qui est savamment cachée et dévoilée par une grande chemise, n'est-ce pas ? Vous avez là toute une thématique. Il est certain que Rembrandt est sensible à ce thème de la femme à la toilette, non pas dans le sens que lui donneront les gens du XVIIIe siècle, un sens plus ou moins libertin, mais au contraire dans un sens que j'appellerais quasi religieux. Alors, bien sûr, Bézabé, et puis il y a aussi le fait que c'est sa seconde femme, qui en a eu une première, qui est morte assez jeune, et qui a toujours le thème de l'autre femme. Bézabé, pour David, est aussi l'autre femme, n'est-ce pas ? Mais il est certain que la toilette, l'or, l'éclat de la chair, la lumière qui en sort, sont des thèmes à la Rembrandt. Dans les scènes d'intimité, c'est, comme le disait fort bien Malraux, cette lumière qui vient de l'intérieur des choses. Or, d'où vient bien la lumière ? Eh bien, elle vient bien des bijoux, de l'or et puis des cheveux.
Ma femme a la chevelure de feu de bois.
L'homme surprend la femme au bain, Mélusine par exemple, pour violer son secret, celui de la vie, des origines. Dans la nudité de la femme et dans sa chevelure déroulée, il veut lire le dévoilement des mystères.
Actéon est puni et poursuivi par la chasse de Diane Artémis, parce qu'il a surpris Diane au bain. Et on peut l'imaginer, et on se l'est imaginé d'ailleurs au XVIe siècle, Diane se coiffant avec tous les appareils d'une toilette féminine, des peignes, des pots d'onguent, etc. Vous retrouvez là tout le même arsenal, n'est-ce pas ? Mais là, vous avez véritablement, chez certains poètes, le déploiement de la féminité mortelle, mais en même temps aquatique. Ophélie développée. J'ajoute, sur le plan de la poésie, que l'on pourrait peut-être tenter d'opposer sur ce plan le fameux poème de Baudelaire, que tout le monde connaît, La chevelure, où l'élément aquatique domine, une eau sombre, une eau noire, une eau colorée, dirait Bachelard, une eau épaisse, bien sûr, avec le fameux poème de Mallarmé, où au contraire la chevelure est une flamme. Il y aurait un intérêt à étudier la thématique de Baudelaire qui va vers la nuit, vers l'alcôve, vers le passé, vers la forêt profonde, etc. Enfin, vous avez des thèmes baudelairiens. Au contraire, Mallarmé, le poète de l'azur, n'est-ce pas ? Mallarmé qui monte dans une sorte de dépouillement que l'on pourrait appeler héroïque et qui annexe au passage une chevelure qui est une chevelure sansonienne, finalement.
Apollinaire. Mon verre est plein d'un vin trembleur comme une flamme. Écoutez la chanson lente d'un batelier qui raconte avoir vu sous la lune sept femmes tordre leurs cheveux verts et longs jusqu'à leurs pieds.
La femme, par son flux menstruel, détient, mesure le temps. Si connaître une femme, c'est posséder le temps, Détenir une chevelure de femme, c'est déjà être immortel. Le fétichiste, qui dans la chevelure révère l'or du temps, rejoint l'alchimiste en quête de la toison.
Les grandes maîtresses du temps, dans la mythologie grecque, sont les Kers, les Moires et les Parques. Ce sont toutes des femmes, des divinités féminines, et pour les Parques, le fil de la destinée peut être très proche du cheveu. Lorsque nous disons « ça tient un cheveu », on peut le dire aussi « ça tient un fil », n'est-ce pas ? C'est la même chose. Par conséquent, il y a bien une liaison entre la chevelure et le temps, et la femme maîtresse du temps, dominant le temps. La femme, par sa qualité de maîtresse du temps, parce que possédant par excellence la chevelure, dans nos traditions indo-européennes surtout, la femme maîtresse du temps est bien par la même l'initiatrice. Non pas... dans l'initiation, il y a deux phases, n'est-ce pas ? Solvet coagula, ou perit ut vivat, n'est-ce pas ? Il faut mourir pour renaître. Il y a une phase ténébreuse qu'il ne faut pas oublier, dans toute initiation, n'est-ce pas ? Et la femme, eh bien, cette phase ténébreuse, le rôle de la femme est d'être initiatrice. C'est pour ça que dans la tradition occidentale, les femmes ne sont jamais initiées. Que les sociétés initiatiques ne sont pas des sociétés de femmes que par des arrangements mondains. Mais en réalité, seul l'homme peut être initié parce que la femme n'a pas besoin, en fait, d'initiation, n'est-ce pas ? Elle est l'initiatrice par excellence. Dans le banquet de Platon, on nous montre que c'est la femme, Diotime de Mantinée, n'est-ce pas ? Et dans le Phèdre, etc., qui introduit et qui initie Platon à la notion de beauté et à l'amour. Il y a donc ce thème-là. Je pourrais faire appel à toute la littérature moyenne-orientale dans ce domaine-là, chez Ibn Arabi, aussi bien que dans toute l'énorme littérature amoureuse de la Perse islamisée, vous avez le rôle toujours de conductrice d'initiation.
Michel Léris. Elles avaient de longs cheveux, pareils à un sable éclatant dans un désert illimité, mais frais sous le soleil ardent, à cause de la circulation profonde d'une source intarissable, coulée, secrète, qui animait leurs joues, quand leurs artères chantaient la ronde du sang.
Les tresses, attitude de réserve, de résistance. La chevelure éployée, tentation, appel, offrande. Les madeleines, comme les vierges, bénéficient de la même chevelure longue, déployée, ondoyante. Et ce n'est pas contradictoire. Chacune, vierge ou grande prostituée, est disponible, possible pour tous les hommes.
Toujours lorsqu'il y a cheveux épars, cheveux non coiffés, vous avez une valorisation, une signification de deuil, de soumission à un destin ou à un être, ou alors de rupture des limites ordinaires. Marie-Madeleine est à la fois en deuil de son péché, mais à la fois elle rappelle qu'elle a transgressé les limites ordinaires. Les deux sont dans la symbolique de la chevelure éparse. Mais je vous signale aussi que de nombreuses pratiques du cheveu épars chez les nazirs ou nazaréens juifs, les nazaréens faisaient vœu, entre autres, de ne pas toucher à leur chevelure et de la laisser pousser de façon éparse et de façon non peignée. Également, les fakirs de l'Inde ont des cheveux longs et non peignés. Les ermites portent la barbe et les cheveux épars et non entretenus également. Pour en revenir à la femme elle-même, il est bien évident que le fait du cheveu épars est un signe à la fois d'abandon et de transgression de limites que l'on pourrait appeler sociales. C'est l'aspect, j'allais dire, de rupture du lien social et au contraire d'émergence de la puissance naturelle, biologique, végétale, ou au contraire chez Ondine, aquatique, de la chevelure. Donc cette puissance sera toujours, pour une société quelconque, et nommément pour nous la société judéo-chrétienne, sera toujours maléfique. Se défaire les cheveux, c'est ou se mettre en deuil, n'est-ce pas, ou se mettre dans une position en dehors de la société commune, ou alors se mettre en rupture avec. La liberté sur la barricade est échevelée, si vous voulez, c'est cela. La chevelure, dès qu'elle est dénouée, et c'est un paradoxe ou une ambivalence, on peut dire qu'elle lie davantage, plus elle est dénouée, plus elle lie. C'est cela son thème. Et si on se lie les cheveux, c'est précisément pour qu'il ne lie pas.
La chevelure de Matisse.
La chevelure de Matisse. Alors disons la chevelure de Matisse. Et bon, Matisse, c'est un grand personnage. Il s'est trouvé que Matisse, c'est très bien que vous touchez le problème parce qu'on ne connaît pas assez Matisse.
Vous le connaissez bien.
Mais je connais, j'aime. Et Matisse avait plusieurs périodes. Et dans les années 1910, il a annoncé sans savoir sa peinture dans les rondes, dans la danse, dans les rondes, les grandes rondes. Il y en a une, je crois, qu'en Russie qui joue. Il y en a les femmes avec des cheveux. Évidemment, la danse, ça marche avec la danse. Alors, les cheveux dans tous les sens.
Voilà, le mouvement, oui.
Après, il a fait des années de la peinture qu'il voulait sage et directement plus sur le modèle. Il se servait beaucoup de modèles. Il a passé les phases des années où on croyait vraiment presque fini dans la peinture de genre où la fille était assise dans le fauteuil avec les fenêtres derrière. C'est vraiment la tradition d'atelier Gustave Moreau. Mmh. Et puis bizarrement, il voulait vraiment aller tout directement, vraiment avec une simplicité qui est vraiment ravissante. Lui a transformé la coiffure et ses filles, ils ont à une certaine période la coiffure des gens Paul Poiret, des cheveux coupés courts, ondulés un peu, jamais droite, mais ça compte beaucoup. La masse de la fille assise dans le fauteuil, les cheveux, ça coïncide avec l'extérieur. Très souvent, il y en a un pot de fleurs de philodendron. Mmh. Qui fait des courbes avec. C'est une faculté courviligne assez extraordinaire chez lui.
Oui, mais je pense surtout à cette fameuse gouache découpée la chevelure, où d'un seul contour, il dit la femme, le mouvement, la danse et la chevelure.
Mais justement, je voulais arriver là, que, étant donné que probablement Matisse aimait la vie à travers les femmes et les fleurs, je crois, peu à peu, après les années, il se passe, comme chez tous les grands artistes, une sublimation où il s'est achevé, dans le sens meilleur des termes, il est parti au ciel, doté de ses dons, de la couleur qui peut exprimer la femme, sa chevelure et une feuille de philodendron. Il prenait la feuille bleue et avec les ciseaux, il a fait chanter plus qu'elle voulait. Il transcendait la couleur en donnant la forme. C'est pas en mettant la couleur de la forme qui est dans la tradition de toute peinture, de toutes les peintures. C'est un cas unique qu'il savait. Alors ça, plus le cheveu, vous savez ce que ça donne. Alors ça marie tout ensemble. Et il avait cette faculté. Alors la couleur des cheveux de Matisse, c'est plus que les parfums, c'est plus que les tactiles, c'est la vie elle-même qui est là, parce que c'est la couleur.
Charles Baudelaire. Laisse-moi respirer longtemps, longtemps, l'odeur de tes cheveux. Y plonger tout mon visage, comme un homme altéré dans l'eau d'une source, et les agiter avec ma main, comme un mouchoir odorant, pour secouer des souvenirs dans l'air. Si tu pouvais savoir tout ce que je vois, tout ce que je sens, tout ce que j'entends, dans tes cheveux. Mon âme voyage sur le parfum comme l'âme des autres hommes sur la musique. Tes cheveux contiennent tout un rêve, plein de voilure et de mature. Ils contiennent de grandes mers dont les moussons me portent vers de charmants climats où l'espace est plus beau et plus profond, où l'atmosphère est parfumée par les fruits, par les feuilles et par la peau humaine. Dans l'océan de ta chevelure, j'entrevois un port fourmillant de chants mélancoliques, d'hommes vigoureux de toute nation et de navires de toute forme, découpant leurs architectures fines et compliquées sur un ciel immense où se prélasse l'éternelle chaleur. Dans les caresses de ta chevelure, je retrouve les langueurs des longues heures passées sur un divan, dans la chambre d'un beau navire, bercé par le roulis imperceptible du port, entre les pots de fleurs et les gargoulettes rafraîchissantes. Dans l'ardent foyer de ta chevelure, je respire l'odeur du tabac mêlé à l'opium et au sucre. Dans la nuit de ta chevelure, je vois resplendir l'infini de l'azur tropical. Sur les rivages duvetés de ta chevelure, je m'enivre des odeurs combinées du goudron, du musc et de l'huile de coco. Laisse-moi mordre longtemps tes tresses lourdes et noires. Quand je mordille tes cheveux élastiques et rebelles, il me semble que je mange des souvenirs.
Dans le personnage de Madeleine, le parfum se joint à la chevelure pour dire l'attachement à la terre, à la femme. Madeleine, c'est celle qui ruisselle de ses larmes, de sa chevelure, de ses vases d'onguents. Femme végétale à la silhouette de Saul qui retrouve à la résurrection le Christ jardinier.
Est-ce une chevelure éployée qui rappelle son ancienne profession de courtisane? Oui, mais en même temps, elle cache sa nudité. C'est le cacher et le laisser voir de la chevelure. Il y a un certain élément donc d'ambiguïté que l'on pourrait appeler ambivalente et même à la limite perverse dans la chevelure éployée. Parce qu'on ne sait pas bien ce qu'elle signifie. Elle cache, elle montre en même temps, voyez-vous. Vous me direz, tout artifice féminin et tout artifice cosmétique veut un peu faire cela. C'est à la fois masqué et caché. Mais dans le thème de la chevelure éployée, je crois qu'il y a un petit peu les deux. D'autres saintes en hagiographie ont présenté ce même caractère. Il y a Marie l'Égyptienne que l'on confond souvent avec Marie-Madeleine, qui a aussi une chevelure cache-sexe, si je puis dire. Et puis, il y a aussi Sainte Agnès. Alors, chez Sainte Agnès, la chevelure la sauve de la perdition. La petite Agnès est emmenée, livrée à un lupanard, et ses cheveux se mettent à pousser et cachent sa nudité. L'iconographie de Sainte Marie l'Égyptienne et de Marie-Madeleine, ou de Sainte Agnès, est une iconographie de la chevelure outrancière. La chevelure véritablement monstrueuse qui enveloppe tout le corps. Dans les représentations de la Vierge, il y a plutôt une inspiration tout simplement vénusienne. Pensez à la naissance de Vénus de Botticelli, où vous avez là des éléments très féminins, reliés. La nudité, l'ondulation de la chevelure au vent, les vagues de la mer et la grande coquille. La Vierge est quelquefois décoiffée, certes, mais décoiffée, j'allais dire, sans tapage. C'est assez discret. Alors il y a tout de même une nuance à établir, bien que tout cela soit des déclinaisons du thème de la féminité. Un emblème en effet de Marie-Madeleine, c'est le pot d'onguent, n'est-ce pas ? On la représente toujours avec un pot d'onguent, dans l'iconographie du XIVe au XVIe siècle surtout. Une fort belle femme, elle est habillée dans cette iconographie, mais habillée richement, n'est-ce pas ? D'ailleurs, la légende dorée répond à cela, et même les visions de Catherine Emmerich, qui ont été rapportées par le poète Brentano, nous montrent une Marie-Madeleine toujours somptueusement parée. Et si vous voulez retracer la constellation du pot d'onguent, vous pouvez remonter en deçà jusqu'au roi mage, qui apporte aussi, n'est-ce pas, de l'encens et de la myrrhe. Et puis également, vous parlez de la rencontre avec le jardinier, qui est très importante, au point de vue symbolique, mais n'oubliez pas que Marie-Madeleine vient pour l'embaumement du Christ. Elle apporte encore des onguents, si bien que c'est le thème de la terre, mais d'une terre encore beaucoup plus forte que celle de la féminité, c'est la terre de la mort. C'est la terre du ventre, le ventre de la terre dans lequel, n'est-ce pas, se fait l'incubation du mort. C'est cela, Marie-Madeleine. Si je puis dire, la scène de Béthanie, l'onction des pieds du Christ, n'était qu'un prélude à la grande onction de la mort. Eh bien, là, vous avez la même consonance ou assonance symbolique entre ces cheveux de Marie-Madeleine, le rôle de la femme enveloppante, de la femme qui est l'onction de l'homme, en quelque sorte, si je puis dire, et puis également, à la limite, évidemment, le grand symbolisme de la mort féminine.
Ce qui survit à la mort peut être aussi un symbole de la mort. Il s'agit là de quelque chose d'autre que Freud a bien repéré. Un fétichisme de la chevelure serait aussi un goût de la mort. Ce qui soulève une autre question, ce n'est pas seulement la longueur ou l'aspect du cheveu, c'est l'odeur du cheveu. Car il est bien certain que nous ne fourrons pas notre nez, notre visage dans la chevelure de l'aimer uniquement pour avoir ce contact des cheveux, mais aussi pour respirer. Et pour respirer quoi? Pour respirer l'odeur de vie, qui est effectivement forte au niveau du cuir chevelu, mais aussi, peut-être bien, pour respirer une odeur de mort. C'est le rhinencéphale, le cerveau primitif de l'homme, qui est le siège des sensations olfactives, et ce n'est pas par hasard que c'est le siège, évidemment, des affects, c'est-à-dire des émotions immédiates et frustes qui nous bouleversent. Et si l'odeur du cuir chevelu venait nous rappeler certaines autres odeurs que nous avons forcément reniflées en venant au monde, vous commencez à voir de quelle odeur je parle, et l'odeur du cuir chevelu rappellerait l'odeur de notre naissance, qui serait aussi celle de la mort à un état antérieur, à un état aquatique dans lequel nous étions plongés jusqu'alors. Donc le contact premier avec le cheveu, c'est ce contact du nouveau-né en même temps avec le pubis de sa mère et son humidité secrète, qui est la dernière humidité qu'il reniflera avant d'aboutir dans le milieu aérien.
Pierre-Jean Jouve. Que ton dos s'achève en montagne triomphante, par-delà les vallées sans crainte. Que la gravité de ta voix soit l'écho de l'odeur secrète, que le silence de tes cheveux se répande sur tes épaules pour faire, dans une boucle, se dérouler l'éternel.
La chevelure féminine préfigure la caresse, l'étreinte, l'oubli. Ce peut être l'enlacement du sommeil ou de la mort, un lieu où se rejoindre en tout cas. Tandis qu'Ophélie se noie seule en son miroir, sans avoir partagé sa folie.
Bachelard met le doigt sur un élément très très important de cette liaison de la chevelure avec l'eau, c'est assez banal bien sûr, mais de la chevelure avec la mort. Et je n'en voudrais pour illustration que certains poètes. Shelley est un des grands poètes de la femme. Il a une poésie, comme dit Perrin, nympholeptique, c'est-à-dire il rapporte tout à la femme. Mais, vous le savez, c'est une femme qui cristallise en elle les éléments, et spécialement l'élément à queue, l'onde, l'eau. Et Shelley a été tellement obsédé par cela qu'il l'a, dans de nombreux poèmes, mis en liaison la femme, l'onde et la mort. En particulier dans le poème, et on pourrait parler non plus d'un complexe d'Ophélie, mais d'un mythe d'Arétuse. Dans le poème Arétusa, Shelley nous montre Arétuse est une nymphe qui, poursuivie par le fleuve, se transforme elle-même en eau, se fond dans le fleuve pour lui échapper. Ce qui est remarquable, c'est que Shelley a suivi à la lettre par sa propre mort. Un tel schéma, n'est-ce pas ? Il est mort noyé de façon très mystérieuse en Grèce. Il a accompli lui-même, un peu comme les surréalistes accomplissent quelquefois, ou sont dans leur œuvre prémonitoire de ce qui va se passer. Je pense à Char, je pense à Breton dans Nadia. Eh bien là, Shelley a accompli exactement cette obsession de la femme et de l'eau par sa propre noyade en Grèce.
Saint John Perse. J'ai rêvé l'autre soir d'île plus verte que le songe, et les navigateurs descendent au rivage en quête d'une eau bleue. Ils voient, c'est le reflux, le lit refait des sables ruisselants. La mer arborescente y laisse, s'enlisant, ses pures empreintes capillaires, comme de grandes palmes suppliciées, de grandes filles extasiées, qu'elles couchent en larmes dans leurs pagnes et dans leurs tresses dénouées.
La mort aquatique est aussi bien une mort dans les étoiles. La dérive des noyés répond à la navigation des corps célestes. La chevelure trace un unique chemin d'eau et de lumière.
Le thème de la Voie lactée que vous évoquez, bien sûr, arrive à consteller la nuit, les étoiles qui sont dans cette nuit, et puis le fait qu'il y a du lait. Vous savez, plusieurs légendes attribuent la constitution de la Voie lactée à une goutte de lait qui serait échappée du sein d'Amalthée nourrissant Jupiter et qui se serait répandue. Il y en a d'autres, n'est-ce pas ? Mais c'est toujours un épanchement de lait qui a produit cette énorme trace dans le ciel. Alors là, bien entendu, c'est l'élément de la féminité. D'autant plus, très souvent, les étoiles, stellées, en latin, sont du féminin, sont féminisées. On peut dire même, vous savez que le mot étoile termine les grands chants de l'œuvre de Dante, on pourrait même dire que les étoiles, c'est toujours la béatrice éternelle, ou l'éternel féminin, dirait Goethe, qui sont sous-jacentes à la méditation de Dante. Je crois donc, là, on peut évidemment classer, tout au moins la Voie lactée, dans le thème de la chevelure, parce que c'est une sorte d'ondulation céleste. Elle s'éploie dans le ciel comme une chevelure. Et vous voyez d'ailleurs, il y en a des figurations qui sont sous la forme d'une femme avec des cheveux épars, n'est-ce pas, qui représente la Voie lactée. Il y a une autre thématique de la Voie lactée, c'est le chemin de Saint-Jacques, mais ça c'est autre chose. Il y aurait le thème également du diadème des fées qui s'intégrerait dans cette symbolique, le diadème des fées sur des cheveux généralement longs, blonds, etc.
La chevelure, ruse de femme, magie d'amour.
Il s'agit bien d'un cheveu qu'Ariane confie à Thésée pour qu'il puisse s'en sortir. Sortir de quoi d'ailleurs ? Sortir probablement du monde de l'affect, représenté par la puissance brutale, terrifiante et cannibalique, d'ailleurs, du Minotaure. Qu'est-ce que représente ce cheveu d'or d'Ariane ? Il représente le pendant symétrique et totalement illogique de la pensée. Il s'agit, je pense pouvoir l'affirmer, de l'intuition. Or, l'intuition, on le sait depuis des millénaires, est bien la qualité féminine. Alors, si les hommes ont toujours daigné, parce que ça leur profitait quelque part, la pensée aux femmes, ils auront toujours reconnu son pendant symétrique illogique, qui est bien l'intuition.
C'était une émission de Jacqueline Guyenne dans une réalisation de Michel Abgral. Ce soir à la technique, Patricia Latté, Pascal Dupont. Bonsoir, à demain, pour une autre nuit magnétique.
Nuit magnétique vous était présenté par Nitzia Falocci.
C'était un numéro des Nuits magnétiques du 23 janvier 1978, avec les documentaires Autour du feu et Mythologie de la chevelure de Jacqueline Nguyen.